La parole de Dieu d'aujourd'hui se trouve dans Galates, chapitre 3, versets 1 à 14. Au Galates insensé, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi? Êtes-vous seulement insensé? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous fait tant d'expériences en vain? Si du moins c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Ainsi, Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi, son fils Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » Et que nul soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisque le juste vivra par la foi. Or, la loi ne provient pas de la foi, mais elle dit, « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ, et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. »
Amen.
Prions lorsque Dieu nous parle à travers l'évêque Dongim. Prions pour lui, pour qu'il puisse avoir la sagesse, la connaissance, la puissance de la parole. Et prions pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu et y obéir. Prions. Le Père, merci de nous avoir appelés à ce culte. Nous avons obéi à ton appel. Il y a encore un certain nombre de membres de l'Église qui te méprisent encore et qui t'ignorent, et pitié d'eux, que ton serviteur puisse leur transmettre ta parole, je prie au nom de Jésus. Écoutez bien la parole d'aujourd'hui. Je vous en supplie. Dieu a justifié la foi. Lisons le résumé des sermons d'aujourd'hui. Le trône de Dieu est fondé sur la justice. Comme il a aimé le monde et il a donné la vie éternelle, il a envoyé la parole. Cette parole est devenue chère et est venue au monde. La parole du Logos, c'est-à-dire la parole vêtue du sang de Dieu, et la parole de la vie éternelle où Dieu demeure. Cette parole est la base de la justice. Si cette parole s'adresse à la chair, c'est la loi. Si cette parole s'adresse à l'esprit, c'est la vérité. C'est pourquoi, si nous voulons mener la vie spirituelle par les ordonnances de la chair, c'est un grand malentendu et une grande illusion. Pour nos âmes, il faut la vérité. Donc, il faut recevoir le témoignage du Saint-Esprit. La parole de Dieu a été manifestée à travers le Fils. Et le Saint-Esprit en témoigne. C'est la vérité. Jésus-Christ est mort dans le cadre de la loi de la chair, mais il a été ressuscité dans le cadre de la loi du Saint-Esprit. Seul par la foi, on peut recevoir le Saint-Esprit. Si nous avons obtenu la justification, nous pouvons être félicités sur cette terre, mais nous n'aurons pas la vie éternelle dans les cieux. Si nos âmes reçoivent la justification, nous aurons la vie éternelle sur cette terre ainsi que dans les cieux. Il faut recevoir la foi Donc, nous recevons non pas un acte, mais par la foi. Celui qui a obtenu la justification par la foi est un vrai chrétien. Et c'est la plus grande justice. Celui qui est sous la loi de la chair est sous la malédiction. Celui qui est sous l'esprit, sous la loi du Saint-Esprit est libre. Le juste vivra par la foi. Le trône de Dieu est basé sur la justice. Celui qui est le plus élevé est celui qui s'est assis sur le trône céleste. Alors ce trône est fondé sur la justice. Donc, puisque le trône de Dieu est la justice, il faut donc Dieu alors Dieu agit donc selon sa justice. Par exemple, si le roi s'assied sur son trône et il transmet ses ordres en étant assis sur ce trône royal, il proclame ses ordres. À ce moment-là, ces ordres ne peuvent qu'être mis en œuvre tels quels, parce que c'est le roi, lui, qui est le plus élevé. Il n'y a personne qui est plus élevé au-dessus de lui. Donc, lorsque le roi agit, il se met sur son trône et ensuite il pratique sa royauté. C'est ainsi que le trône de Dieu est basé sur la justice. La parole de Dieu sort de ce trône céleste. Dieu lui-même ne peut pas rejeter cela. Cela signifie que la parole qu'il a transmise, lui-même par exemple, il nous a défendu de manger le fruit de l'arbre dans la connaissance du bien et du mal. C'est sa justice. Et c'est la parole qui est sortie de son trône céleste. C'est la justice même, en fait. Alors l'homme qui a mangé les fruits interdits doit mourir. Mais même si Dieu aime les hommes qui ont péché contre lui, il ne peut pas annuler sa parole déjà prononcée. Alors pour sauver ces hommes qui sont devenus pécheurs, il doit mourir lui-même. Et parce qu'il a aimé les hommes, alors il voulait les sauver. Donc pour les sauver, c'est lui-même qui doit rembourser la dette du péché qui a été commis par les hommes. Donc Dieu lui-même ne peut pas annuler, révoquer sa propre parole. Dieu aussi doit respecter, honorer, respecter sa parole qu'il a prononcée lui-même. Alors là, puisqu'il a aimé les hommes, il devait abandonner sa vie pour sauver ces hommes. Il ne peut pas en fait révoquer sa parole qui a été prononcée. Donc, il faut que nous cherchions sa justice. Ce n'est pas la peine de nous inquiéter de quoi manger, de quoi vêtir. Et parce que c'est la justice de Dieu qui est plus grande, en fait, plus grande que la nourriture, que le vêtement, que la maison. Alors, où se trouve-nous maintenant, en fait? On se trouve devant qui? Quelle sorte de parole écoutons-nous? Par quoi vivons-nous aujourd'hui? Alors, nous respirons spirituellement parce qu'il y a la justice de Dieu qui nous fait respirer.
당신이 영혼이 살려면 그 의를 구하라는 거예요.
Pour que nos âmes vivent, il faut demander sa justice. Il faut chercher sa justice pour que nos âmes vivent. Qu'est-ce que Jésus a dit en la matière? Jean 17, verset 3. En fait, la vie éternelle consiste à connaître Jésus-Christ et le Dieu unique qui a envoyé le Messie dans le monde. C'est ça la justice. Si nous ne connaissons pas cette justice, nous ne pouvons que périr. Il est dans Osée 4, 7, il est dit, « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Parce que mon peuple est élevé par moi. Mais eux, en fait, ils sont dans l'ignorance de moi. C'est la raison pour laquelle ils périssent. Qu'est-ce que le sermon? C'est un enseignement. Hein? Donc, si le prédicateur est dans l'ignorance, il ne peut pas réussir. Il ne peut pas bien enseigner. Donc, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Un ignorant ne peut pas enseigner un autre ignorant. C'est naturel, hein? C'est normal. Hein? Si je ne connais pas le tableau de la volonté de Dieu, je ne peux pas enseigner. Hein, je n'ai pas le droit de vous enseigner si je suis dans l'ignorance. Moi, en fait, pendant des décennies, j'étais dans une connaissance parfaite et absolue. C'est pourquoi je vous ai enseigné. Il faut que nous soyons dans la connaissance. À ce moment-là, nous pouvons être dans la justice. À ce moment-là, nous pouvons vivre. Qu'est-ce que la foi? C'est de connaître Dieu. Qu'est-ce que le salut? Il faut que nous connaissions Dieu et il faut que nous connaissions le Fils qui a été envoyé par Dieu lui-même. À ce moment-là, nous pouvons être dans la justice et nous pouvons vivre. Mais les gens de religion, eux, ils n'ont pas de connaissance. Ils ont leurs propres convictions, ils ont leurs propres connaissances. C'est pourquoi ils font l'idolâtrie. Et ils font leurs efforts personnels. À ce moment-là, ils ne peuvent qu'aller en enfer. Nous aussi, si nous ne connaissons pas la justice, nous ne pouvons qu'aller en enfer. Pourquoi il faut aller à l'école? Et pourquoi on s'efforce d'envoyer nos enfants à une bonne université? Pourquoi? Pourquoi on veut les envoyer à une école précieuse? En fait, il y a ceux qui sont incultes, ils sont ceux qui sont intellectuels. Alors, qui sont les incultes, en fait? Eux, ils n'ont pas obtenu de connaissances. Alors, ils ne sont pas été bien enseignés. Ils n'ont pas été suffisamment éduqués. C'est pourquoi ils ne sont pas des intellectuels. Ils n'ont pas de connaissances suffisantes. Lorsqu'ils sont nés, des bébés, en fait. Et ces bébés n'ont pas de connaissances, n'est-ce pas? Lorsqu'ils naissent, ensuite, ils n'ont rien obtenu, ils n'ont pas acquéri de connaissances. Après leur naissance, ils mangent, ils vivent. Et voilà. Ensuite, c'est ainsi qu'ils sont des incultes. Ils n'ont que des choses innées et ensuite ils peuvent obtenir des choses en écoutant, en voyant avec leurs yeux, avec leurs oreilles. C'est ainsi qu'ils vivent avec leur propre volonté et avec ce qui est inné. C'est ce qu'on appelle l'ignorance. Et ce sont des adultes, des incultes. Nous menons la vie de la foi. Et il faut que nous écoutions le sermon, il faut que nous soyons enseignés pour mener la vie de la foi avec réussite. Mais il faut écouter continuellement pour obtenir la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient où, en fait? La foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend. Si nous ne croyons pas, nous devenons tout simplement des gens des religions. Est-ce que vous avez compris? C'est pourquoi? Qu'est-ce que la connaissance qui est contraire à l'ignorance? Même les animaux, eux, en fait, est-ce qu'ils sont éduqués ou pas? Non. Eux, en fait, ils vivent avec leur propre instinct. Ils mangent s'ils ont faim. Ils vivent comme des cochons. Donc, vivez comme les animaux. Ils sont donc des incultes. Un cochon, par exemple, eux, est un inculte. Parce qu'ils n'ont pas été éduqués. Ils vivent avec ce qui est inné. Ils n'ont rien obtenu, ils n'ont rien acquis. Ils mangent tout simplement parce qu'ils ont faim et ils vont à une autre montagne pour chercher d'autres vivres. Ils n'ont pas été éduqués dans une université, mais quand même, ils peuvent vivre avec leurs propres connaissances innées. C'est parce que la connaissance n'est pas entrée en eux, donc ils sont incultes. Mais qu'est-ce que la connaissance, par contre? En fait, nous apprenons à l'école, nous apprenons à l'université, et nous acquérons ainsi beaucoup de connaissances et nous devenons des intellectuels. Puisque nous avons acquis beaucoup de connaissances, nous devenons des intellectuels. Alors, nous ne pouvons pas mener la vie de la foi si nous sommes dans l'ignorance. C'est pourquoi Jésus nous a demandé d'enseigner. Alors, il nous a dit, « Faites toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Fils, Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez tout ce que je vous ai prescrit et gardez-les. » C'est l'aise pour laquelle il y a les prédicateurs qui vous enseignent. C'est pourquoi vous devez écouter le sermon. Si le prédicateur n'a pas d'inspiration, si le prédicateur ne connaît pas la justice de Dieu, et il le tue. Et alors nos esprits ne peuvent que mourir. Il faut que les prédicateurs dépendent du Saint-Esprit et prient absolument pour connaître la justice de Dieu. À ce moment-là, ils peuvent sauver les âmes. Sinon, un prédicateur dénué d'inspiration ne peut pas sauver les âmes. Donc, il faut que nous soyons absolument dans la connaissance. Le Père, c'est celui qui est le plus élevé. Nous appelons Dieu Père parce que le mot Père signifie une personne, la personne la plus élevée. Notre Dieu le Père se trouve dans l'endroit le plus élevé. Vous connaissez Abraham. Abraham, en fait, Ab signifie le Père. Abraham signifie les nations. Abraham signifie le Père de toutes les nations. Alors, notre Dieu le Père, c'est lui qui est le plus élevé. C'est pourquoi nous l'appelons Père. Est-ce que Jésus aussi peut être le Père? Lui, il est le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ qui nous a enseigné que Dieu est notre Père. Alors, Jésus-Christ est allé à Jérusalem et il a travaillé pour satisfaire les exigences de la loi, en fait. Il a été séparé de Marie, sa mère, lorsqu'elle était en fait enfant. Il y a eu beaucoup gens. Et alors là, Jésus, lorsqu'il était enfant, il a été séparé de ses parents. Hein. Dont la mère a été Marie. Donc voilà, son père et sa mère ont été dans grand embarras. Et il a dit à Jésus, ils ont dit à Jésus, alors tu étais où en fait? Nous t'avons cherché. Alors Jésus a répondu, pourquoi vous m'avez cherché? Vous ne savez pas que je suis dans la maison du Père. À ce moment-là, Marie, sa mère, a été très surprise par cette réponse, parce que c'était la première fois que Jésus-Christ a parlé de Dieu le Père. Alors, l'ange Gabriel a dit à Marie, tu seras enceinte, il y aura un fils, et ce fils et sera le fils de Dieu. Donc, voilà. Marie a déjà entendu parler du Fils de Dieu et c'était la première fois que Jésus-Christ a mentionné Dieu le Père. Donc, Marie a été très étonnée de sa réponse. Lorsque Jésus nous a enseigné comment prier, il nous a dit, Dieu le Père connaît tous vos besoins, mais lorsque vous priez, il faut que vous priez d'abord notre Père qui est aux cieux. C'est ainsi que Dieu le Père s'est présenté. Dieu s'est présenté en tant que notre Père. Alors Dieu est le Père de Jésus et celui de nous, notre Père aussi. Sur le montagne, sur le mont de transfiguration, Dieu le Père a dit, c'est mon fils qui fait ma joie. C'est ainsi que il y a le Père, Dieu le Père est le fils de Dieu. Le Père signifie celui qui est le plus élevé. Alors ce Dieu le Père, voulait en fait hériter des cieux. Dans ce but, il a créé les cieux. Il est dit dans Hébreu. Le Fils de Dieu était avec Dieu le Père. Il est égal à Dieu le Père. Alors, le Fils de Dieu était égal à Dieu le Père. Mais si Jésus entre dans les cieux puisqu'il est égal à Dieu le Père, il y a deux dieux dans les cieux, n'est-ce pas? Il était impossible, en fait. Parce qu'il faut qu'il y ait le plus élevé d'abord. Ensuite, il y a celui qui le sert en tant que serviteur. Donc, Jésus-Christ a décidé de vivre par son Père. C'est ainsi qu'il a été vraiment extrêmement humble. Il nous a ainsi montré une humilité absolue. Alors, c'est ainsi qu'il s'est abaissé au maximum, même s'il est égal à Dieu le Père. Il s'est abaissé, il s'est humilié lui-même. Alors, il a reconnu que c'était son Père qui est plus grand que lui. Et alors, même si. Alors, il n'a pas voulu être égal à Dieu le Père. Et en fait, il s'est humilié, il s'est abaissé et il est devenu un être humain pour être inférieur même aux anges, pour s'abaisser au maximum. Et il s'est soumis à Dieu le Père et il a obéi jusqu'à la mort. Et il s'est soumis même à Dieu le Père. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a pas sa vie biologique, parce que il nous a donné son sang et il nous a donné sa vie entière. Mais comment il a été ressuscité? Parce que c'est Dieu le Père qui l'a fait vivre de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité. Alors comment nous pouvons en fait connaître le Fils de Dieu? Dieu le Père a dit à une vierge, t'enfanter, et ensuite lui a dit, tu auras un fils, mais c'est le Fils de Dieu. Donc Jésus-Christ est né d'une vierge. C'est le Fils de Dieu. C'était la parole qui est devenue chair et venue au monde. C'est le Fils de l'homme qui est appelé la parole. Cette parole est le Fils de Dieu, en fait. Si vous croyez au Fils de Dieu, vous pouvez vivre. Sinon, vous ne pouvez que mourir. Donc, si nous croyons à la parole de Dieu, nous pouvons vivre. Mais si nous ne croyons pas à la parole de Dieu, nous ne pouvons que mourir. Parce que personne ne peut voir Dieu le Père. Ça, ce n'est pas possible. Mais il nous a permis de voir le Fils de Dieu. Et à travers son Fils, nous pouvons recevoir sa grâce. Qui est le Fils de Dieu? C'est Emmanuel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il sorte absolument d'une vierge. C'est lui qui est le Fils de Dieu. Et c'est lui qui est Dieu. Et le Père a envoyé donc ce Jésus-Christ. Alors Dieu le Père est celui qui nous a envoyé le Christ. Donc, il faut que nous comprenions la relation entre Dieu le Père et le Fils de Dieu. Donc, Jésus-Christ s'est abaissé au maximum, s'est humilié, en fait, pour élever Dieu le Père, pour ne pas être égal avec le Père. Mais en fait, un ange, c'est-à-dire le diable, est intervenu dans la relation entre le Père et le Fils de Dieu. Alors, c'est Satan parce qu'il a été orgueilleux, c'est pourquoi il s'est révolté contre Dieu le Père. Le Fils de Dieu a été extrêmement humble, c'est pourquoi il a décidé de devenir inférieur aux anges. Il s'est abaissé au maximum, il est devenu donc un être humain pour s'humilier. Mais le diable voulait s'élever, c'est pourquoi il a péri, parce qu'il a été arrogant, orgueilleux. Si nous sommes plus élevés que le Fils de Dieu, nous sommes arrogants. C'est pourquoi Dieu résiste aux arrogants. C'est pourquoi il nous a demandé d'être humbles. Jésus-Christ nous a dit, en fait, si vous êtes dans la loi, venez à moi. Si vous êtes bien chargé, si vous avez un grand fardeau, venez à moi. Moi, je suis humble et doux. Venez à moi et apprenez-moi. Alors, en allant vers Jésus, nous apprenons son humilité. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons être humbles, comme Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ ne voulait pas être égal à Dieu le Père. Alors, lui, en fait, il a accepté d'être appelé le Fils de Dieu et il a appelé Dieu Père parce qu'il était humble. Lui, il est devenu enfant, il est devenu Fils de Dieu, qui est humble. Si nous sommes enfants de Dieu, et nous devons élever Dieu le Père au maximum. Donc, il faut que nous agissions en tant qu'enfants de Dieu, en étant, en nous abaissant, en nous humiliant au maximum. Si on ne s'abaisse pas et si on veut s'élever, c'est parce qu'on est satanique. Il n'y a que deux choses. Si nous sommes humbles, et voilà, nous pouvons vivre. Mais si nous sommes arrogants, nous ne pouvons qu'être jetés dans le feu, nous ne pouvons entrer dans l'Hadès, dans un feu éternel. Si vous êtes orgueilleux, si vous êtes arrogant, Jésus-Christ s'abaisse devant vous, et vous, en fait, alors vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas persister. Si vous êtes humble, vous élevez ainsi Jésus. C'est ça la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi ne consiste pas à faire des efforts personnels. Alors, si vous faites l'idolâtrie selon votre propre conviction, vous ne pouvez que périr, en fait. Alors, qu'est-ce que la loi, en fait? La loi nous fait pécher. Alors, Dieu nous a donné la loi. Alors, nous avons aussi notre propre conscience. Alors, c'est ça la loi, en fait. Cette conscience, c'est la loi. Et alors, nous pensons beaucoup à notre conscience. Si nous renforçons notre conscience, nous devenons des pécheurs, en fait. Alors, lorsque vous menez la vie de la foi à l'Église, est-ce que vous êtes basé sur votre propre conscience? Vous ne pouvez que devenir pécheur si vous insistez trop sur votre conscience. Par exemple, oui, j'ai compris mes péchés. Alors là, je suis pécheur. Oui, c'est bien ça. Vous avez bien compris que vous êtes pécheur, alors vous ne pouvez qu'aller en enfer si vous êtes pécheur. Donc, si vous êtes sous la loi, si vous êtes sous la malédiction, cela signifie que vous êtes sous la conscience. Donc, être sous la conscience, c'est être sous la malédiction. La conscience devient votre propre justice. Alors, avec cette propre conscience, vous critiquez les autres et vous les condamnez. Parce que vous vivez avec votre propre justice. À ce moment-là, vous n'aurez pas la justice de Dieu. C'est redoutable. Hein? C'est vraiment terrifiant. Donc, si nous sommes des chrétiens, nous ne devons pas agir selon notre propre conscience. Si nous sommes des chrétiens, si vous regardez des quotidiens, des journaux, et vous pouvez voir des manifestations qui ont eu lieu contre le gouvernement actuel. Donc ces manifestants sont appelés des criminels de conscience. Et en fait, ils n'ont pas commis d'adultère, ils n'ont pas commis de vol, ils n'ont pas commis de meurtre. Mais eux, en fait, ils ont agi contre la constitution du pays. Parce que, voilà, tous les pays, par exemple, la Corée possède une constitution. Donc, il faut que nous la gardions, respections. Mais, en fait, il y a en fait, des manifestants, eux, en fait, qui résistent contre le gouvernement actuel, contre la constitution. Donc, ils agissent leur propre idéologie. Mais qu'est-ce que l'idéologie? L'idéologie, c'est quelque chose de redoutable. Qu'est-ce que la conscience? La conscience, c'est une loi qui nous maudit. Alors, il est dit dans le texte, tous ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction. Est-ce que vous menez la vie de la foi selon votre propre conscience? Notre Église est confrontée à une grande crise parce qu'il y a un certain nombre de membres de l'Église qui ont agi selon leur propre conscience, alors qui ont cherché à condamner les autres. Donc, faites attention. Si nous menons la vie de la foi selon notre propre justice, nous ne pouvons que périr. Le péché nous envoie en enfer. Quelle est la demande de la loi? Ce n'est pas de ne pas pécher. La loi nous conduit à nous rendre compte que nous sommes des pécheurs. Donc, la fonction de la loi, ce n'est pas nous interdire de pécher, mais c'est nous permettre de nous rendre compte que nous sommes pécheurs. Par exemple, même si vous n'avez pas commis d'adultère, mais si vous convoitez quelqu'un, vous êtes déjà adultère. À ce moment-là, vous ne pouvez qu'aller en enfer, même si vous avez fait péché, non pas avec votre chair, mais avec en pensée, vous ne pouvez qu'aller en enfer. Donc, si nous sommes sous la loi, nous ne pouvons que être sous la malédiction. Alors Dieu nous a aimés, puisqu'il nous a aimés. Cela ne signifie pas que Dieu tolère nos péchés, non. En fait, il nous a aimés et il nous a reconnus comme ses enfants, mais il voulait nous sauver du péché et il ne voulait pas que nous périssions à cause de nos propres péchés. C'est pourquoi il a fait quelque chose par amour pour nous. Qu'est-ce que c'est? Il nous a donné la foi, c'est la grâce. Il nous a donné sa grâce, c'est un cadeau. De sa part, la foi qu'il nous a donnée, c'est sa grâce. Il nous a promis de nous sauver du péché. Alors, cette promesse ne peut pas être changée, c'est sa justice. Si nous vivons son sang, nous pouvons vivre, c'est sa justice. Alors, si nous vivons son sang et si nous mangeons sa chair, à ce moment, nous pouvons vivre. Alors, on peut nous critiquer parce qu'on a péché. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, Dieu reconnaît le fait que nous sommes pécheurs. Mais il ne peut pas tolérer nos péchés, ça c'est vrai. Mais il a décidé de se charger de nos péchés pour nous sauver. Et alors, il nous demande de vivre avec ce qui vient de lui. C'est-à-dire que nous pouvons vivre par la foi, par le Saint-Esprit qui sort de lui. C'est ça sa justice. Ce qui sort de lui, c'est la parole. Cette parole est la justice. Ce qu'il le donne, c'est le nom de Jésus et sa justice. Et il faut que nous croyons selon sa volonté. Donc, ce que nous devons avoir en nous, c'est la justice de Dieu. Si nous sommes remplis de notre justice, humaine. Alors, si nous sommes sous la loi, nous ne pouvons qu'être maudits. Dieu voulait que nous serions sauvés du péché. Alors si nous acceptons ainsi sa volonté, nous pouvons entrer dans le royaume des cieux. En fait, les pharisiens, eux, en fait, ils ont été vraiment éveillés pour ne pas pécher. Mais si nous gardons notre propre mérite, nous ne pouvons que périr. Il faut absolument la justice de Dieu. Nous participons à la communion, nous mangeons sa chair, nous buvons son sang. Pourquoi nous devons le faire? En fait, cette coupe ne se transforme pas en sang et ce pain ne se transforme pas en la chair de Jésus-Christ. Il n'y a pas de phénomène chimique pendant la communion. Nous avons déjà reçu sa grâce. Alors, ce que nous faisons pendant cette communion, c'est de commémorer le fait que nous avons reçu sa grâce. Par exemple, il y a une personne qui est âgée de plus de 80 ans. Et nous pouvons ainsi fêter le 80e anniversaire. Et c'est ainsi que nous commémorons notre vie. De la même manière, nous commémorons le fait que nous avons reçu la grâce de Jésus-Christ pendant la communion. Répétez, j'ai reçu la grâce de Jésus, alors j'ai mangé sa chair, j'ai bu son sang, parce que j'ai reçu sa grâce. Donc il faut, alors c'est ainsi que la justice de Dieu est entrée en nous, le mérite de Dieu est entré en nous, alors c'est ce que nous commémorons. Donc lorsque nous participons à la communion, nous ne pouvons pas parler de notre propre conscience, nous ne pouvons pas parler de notre propre mérite. Par exemple, lorsque nous transmettons nos témoignages, et alors il faut que nous parlions de la grâce que nous avons reçue. Mais il ne faut pas que nous nous vantions notre propre conscience pendant le témoignage que nous transmettons aux autres. Donc faites attention, nous avons reçu sa grâce. Donc là où se trouvent beaucoup de péchés, il y a une grande grâce. Voilà, donc si nous n'aurons pas de justice de Dieu, nous ne pouvons que périr. Mais cela ne signifie pas que nous renions la loi. Nous renions l'effet de la loi. Non, il ne faut pas renier l'effet de la loi. Nous avons déjà approuvé l'effet de la loi parce que quelle est la fonction de la loi? C'est de reconnaître le fait que nous sommes pécheurs. Voilà, donc grâce à la loi, nous avons compris que nous étions pécheurs. Alors, Père, alors si nous sommes des pécheurs, alors si nous avons déjà reconnu notre état de pécheur, à ce moment-là, la loi n'a rien à faire. Parce qu'il y a la grâce de Dieu. Alors, nous avons reçu sa grâce. Alors, par grâce au sang, à la chair de Jésus-Christ, nous avons reçu sa grâce, nous avons obtenu sa vie. Donc pendant la communion, nous commémorons en fait le fait que nous avons reçu la grâce de Jésus-Christ. Si nous avons pitié de Jésus-Christ pendant la communion, c'est une superstition. Donc ce n'est pas la peine de pleurer en buvant la coupe, en mangeant le pain. Ce n'est pas la peine de pleurer pour Jésus-Christ avec compassion. Il faut tout simplement remercier de sa grâce. Mon âme reçoit la grâce. Mon âme reçoit la grâce. Mon âme reçoit la grâce. Donc il faut que nous soyons remplis tout simplement de la justice de Dieu. Si nous avons reçu beaucoup de grâce, c'est parce que nous sommes remplis de sa justice. Plus on reçoit sa grâce, plus on peut être rempli de sa justice. À ce moment, nous pouvons entrer dans la vie. Si nous recevons sa grâce, nous pouvons entrer dans la vie de Dieu. Et à ce moment, nous pouvons être vraiment, nous pouvons vraiment vivre. Donc, recevez sa grâce, sinon nous ne pouvons que périr. Il faut que l'Église, son âme, reçoive sa grâce, sinon il n'y aura que la perdition. Il faut que nous soyons remplis de la justice de Dieu. Si vous êtes arrogant, vous ne pouvez que périr. Levez-vous. Si nous n'avons pas la justice de Dieu, alors nous ne pouvons que périr. La loi nous a déjà condamnés, donc nous sommes pécheurs. C'est ce que nous reconnaissons. Alors Jésus-Christ s'est chargé de nos péchés et il nous a ainsi donné sa grâce et nous l'avons reçue. Alors comment nous pouvons expérimenter cette grâce? Ce n'est pas une conception, ce n'est pas une pensée, ce n'est que par le Saint-Esprit que nous pouvons expérimenter sa grâce. Il faut que le Saint-Esprit qui doit sceller la grâce que nous avons reçue, il faut que le Saint-Esprit qui doit agir en nous pour que nous soyons remplis de sa grâce et sa justice. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous ne pouvons qu'être humbles. Donc priez, prions par le Saint-Esprit et que je puisse recevoir le Saint-Esprit. Alors prions. Pour être remplis de sa grâce. Comment nous pouvons vivre? Il faut absolument recevoir sa grâce, il faut absolument la justice de Dieu. Sinon, nous ne pouvons que périr. Notre propre conscience nous maudit, nous condamne et nous tue. Votre mérite, votre propre justice vous tue. Donc, voilà, mourons avec Jésus-Christ qui a été crucifié et recevons la grâce de Dieu et vivons seulement par le Saint-Esprit. Prions pour que le Saint-Esprit nous aide.